7-9.
Soyez les bienvenus sur Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 29 novembre. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, il a balayé le variant Delta en 2 semaines en Afrique du Sud. Le variant Omicron du coronavirus, probablement présent en France. Séquençage nécessaire et long pour l'identifier. Ce qui pose la question des cas contacts. Précision dès le début du journal. Après les autres titres.
La main est tendue, mais c'est une main de fermeté. Le ministre des Outre-mer à son arrivée à Pointe-à-Pitre. Il rencontre les syndicats aujourd'hui. Qui sera le Ballon d'Or 2021 de football ? Réponse ce soir, revue d'effectifs et de favoris à la fin de ce journal. Et puis Joséphine Baker au Panthéon demain, figure aujourd'hui consensuelle. On verra qu'il n'y a pas si longtemps, on n'en était pas là.
Les invités, les rendez-vous d'Inter ce matin à 7h50 justement. C'est le fils de Joséphine Baker, Brian Bouillon-Baker, qui sera à notre micro pour évoquer la panthéonisation de sa mère. Et avant cela, 7h15, le zoom sur l'amour de Joséphine Baker pour la France. À 8h20, avec Yaël Gauze, donc, le grand entretien de la matinale. Aujourd'hui, notre invité, le secrétaire d'État chargé aux affaires européennes, Clément Beaune. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
Inter. Il se répand comme une traînée de poudre. Canada depuis cette nuit, Suisse sans doute, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Danemark, Italie. Le variant Omicron, selon toute probabilité, déjà présent sur le territoire français sans avoir encore été officiellement confirmé. Londres convoque les ministres de la Santé du G7 aujourd'hui. La France fait évoluer sa quarantaine. Tout cas contact d'une personne infectée par le variant Omicron doit s'isoler, même si elle est vaccinée. Sauf que, Sophie Bécherel, pour avoir le séquençage, ça prend plusieurs jours.
Seul le séquençage du virus permet d'obtenir sa carte génomique complète et donc d'être certain qu'on a affaire à Omicron ou un autre variant. Dans la dernière enquête flash réalisée par Santé publique France début novembre, 99,6% des échantillons séquencés étaient du Delta, ce qui n'empêche pas de surveiller les 0,4% restants afin de s'assurer qu'ils ne représentent pas un risque. C'est ainsi que les virologues ont constaté qu'en 2 semaines, Omicron avait balayé Delta en Afrique du Sud. Doit-on s'attendre à la même dynamique chez nous ? Impossible de le dire, notre couverture vaccinale, la météo, les comportements sont différents. Le séquençage est donc indispensable, mais un peu long. Dans l'urgence, il est possible de s'appuyer par défaut sur les tests PCR. Ceux qu'on utilise aujourd'hui ont été profilés pour identifier 3 mutations. L'une d'elles, L452R, est présente chez Delta, mais absente chez Omicron. Autrement dit, après analyse du test, l'absence de L452R est un indice, une suspicion, pour dire qu'on a affaire à Omicron. Est-ce à partir de cette suspicion qu'on va demander au cas contact de s'isoler ou après le séquençage, au risque de laisser filer de nouvelles contaminations? Le conseil scientifique devrait en dire plus ce matin.
Et la conférence de presse en effet du conseil scientifique est prévue vers 10h30. Devant l'inconnu, nous voilà revenus au premier temps de la pandémie. De plus en plus de pays ferment leurs frontières. Dernier en date, le Japon, qui venait juste d'assouplir l'entrée des étudiants et voyageurs d'affaires étrangers. Demain, frontières refermées comme Israël depuis hier soir. Et le Maroc interdit pour les 2 prochaines semaines les vols directs vers son territoire. Le secteur du tourisme craint donc de voir le scénario catastrophe se répéter, Agnès Soubiran.
Le traumatisme du premier confinement est encore dans toutes les têtes, avec des avions garés à perte de vue sur les tarmacs, des aéroports déserts et des vols au compte-gouttes. Pour Loïc Tribault-Laspierre, spécialiste du secteur aérien au Centre d'études et de prospectives stratégiques, cette 5e vague aura forcément des conséquences.
L'activité du mois de décembre est une activité qui est importante pour le transport aérien. C'est la période où on se déplace, c'est la période où on voyage, c'est la période des vacances, c'est la période des regroupements familiaux. Psychologiquement, la crainte de la pandémie, la crainte d'être contaminé va stopper significativement l'activité aérienne.
Une 5e vague qui intervient alors que le secteur reprenait des couleurs, avec même le retour des touristes étrangers dans les stations de ski françaises. Didier Arino, président de ProTourisme.
On a le retour des Brésiliens, on a le retour des Mexicains, on a le retour des Américains. Donc il y avait un certain nombre de voyants qui passaient au vert. En revanche, si ce variant se développe, s'il fait preuve d'une plus grande contagiosité, effectivement, dans ces cas-là, le secteur sera impacté.
Pour l'heure, les réservations dans l'Hexagone pour les vacances de Noël sont très bonnes, mais la situation est redevenue incertaine.
D'autant que ce variant apparaît en pleine 5e vague en France. Plus de 30 000 nouveaux cas recensés en un jour contre moins de 20 000 il y a juste une semaine.
Il est 7h05, la crise sanitaire, Anaïs, toile de fond des tensions aux Antilles.
Oui, après une semaine de barrages et de manifestations, le ministre des Outre-mer est arrivé en Guadeloupe visiter Claire pour rencontrer dès aujourd'hui élus et syndicalistes tout en affichant sa fermeté. Yann Gallic est à Pointe-à-Pitre.
Dès son arrivée sur le sol guadeloupéen, le ministre des Outre-mer a engagé un bras de fer avec les syndicats, des leaders syndicaux qui réclament toujours la fin de l'obligation vaccinale et des suspensions pour les soignants, l'arrêt des poursuites judiciaires contre les manifestants interpellés par la police, des mesures contre la vie chère, des embauches massives pour les jeunes. Max Évariste est le secrétaire général du syndicat EFO.
Le ministre, on va le rencontrer, nous avons nos revendications, donc il est obligé de les respecter. Ce qu'on exige, c'est de vraies négociations sur notre cahier de revendications avec l'ensemble des membres du collectif. Pompiers, soignants, les politiques, tout le monde.
Même s'il reste ouvert au dialogue, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, n'a pas l'intention de céder sous la pression syndicale.
Je suis plus que choqué de voir des représentants syndicaux qui demandent précisément la libération des personnes qui ont été interpellées pour des faits de violence contre les policiers et les gendarmes. La main est tendue, néanmoins ça reste une main de fermeté. J'accepterai de dialoguer avec ces personnes. Mais je leur dirai aussi, droit dans les yeux, qu'ils doivent condamner les violences, d'où qu'elles viennent.
Après les syndicats, Sébastien Lecornu rencontrera les élus locaux qui appellent au dialogue sans délai. La priorité actuelle de la Guadeloupe, disent-ils, c'est de sortir de cette crise.
Et le ministre sera en Martinique demain avant un retour à Paris mercredi. La neige crée la pagaille dans le Puy-de-Dôme. 1500 véhicules ont dû être évacués dans la soirée de l'autoroute A89 pour laisser travailler les déneigeuses. Dans le nord, des habitants évacués de plusieurs communes entre Dunkerque et Hasbrouck à cause là des inondations. 20 jours de pluie tombée en quelques heures. Semaine cruciale pour Éric Zemmour en meeting dimanche à Paris et qui prévoit d'annoncer sa candidature dans les prochains jours. Tout en faisant oublier ce premier déplacement sur le terrain très compliqué à Marseille, le polémiste d'extrême droite a reconnu sur Twitter un geste fort inélégant, son doigt d'honneur adressé à une passante marseillaise, Élodie Fauré.
Chronique d'un fiasco marseillais. La séquence était pourtant très attendue, annoncée depuis des semaines comme le moment qui marquerait la fin de la pré-campagne. Mais tout a finalement tourné au vinaigre, accueil musclé des militants antifascistes, déambulation ratée dans un quartier vide, jusqu'à l'épisode final, un doigt d'honneur adressé à une passante qui l'avait elle-même insultée. Une image choc immortalisée par l'AFP. Pour l'entourage d'Éric Zemmour, il s'agit donc aujourd'hui de sauver les meubles. Je ne veux pas que Marseille soit la dernière image avant la candidature, dit un membre de l'équipe. Envisager donc soit une vidéo percutante, soit un nouveau déplacement pour chasser le souvenir marseillais. Il faut aussi préparer le Zénith de Paris. Cette journée du lundi y est consacrée. Pour en mettre plein les yeux, l'équipe Zemmour a d'ores et déjà surbooké. La salle devrait être pleine à craquer, ainsi que l'extérieur du Zénith où un écran géant pourrait être installé. Reste à savoir quels seront les soutiens qui oseront se montrer alors que le polémiste apparaît aujourd'hui de plus en plus isolé.
Élodie Fauré, elle, éleva ses enfants adoptés partout dans le monde, sa tribu arc-en-ciel. Joséphine Baker entrera au Panthéon demain. Celle qui cacha des armes pour la résistance, lutta toute sa vie contre le racisme. Cette panthéonisation permet au chef de l'État de répondre aux extrêmes de droite, de gauche, figure consensuelle aujourd'hui, mais il y a 8 ans, lorsque Régis Debray écrivit une première tribune sur le sujet dans Le Monde, l'accueil fut pourtant mitigé, Antoine Gignot.
Cette sirène des rues pourrait bien nous aider à dégeler les urnes et les statues, écrit Régis Debray en 2013 dans une tribune qui passe aux yeux des politiques presque inaperçue. Aucun parti ne s'empare du sujet. Le dossier transmis à François Hollande n'aboutit pas. 8 ans plus tard, rien n'est pareil, explique Pascal Bruckner, en faisant campagne pour l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. L'essayiste et romancier ne rencontre aucune résistance. L'époque n'est plus la même.
Il y a eu entre-temps la révolution des minorités, il y a eu MeToo, il y a eu le meurtre de George Floyd aux États-Unis et les conséquences en France. Et tout d'un coup, cette chanteuse et danseuse américaine qui était venue à Paris redevient une icône pour une France qui doute d'elle-même. C'est une figure consensuelle. Puis c'est une manière aussi de transformer l'histoire de France en épopée émancipatrice. Donc ça, pour Macron, c'est très bon.
Car la figure de Joséphine Baker, bisexuelle, antiraciste, engagée dans la résistance, ne permet pas seulement au président de la République de parler réconciliation mémorielle et valeurs républicaines. C'est aussi l'occasion, sur le plan international, de répondre aux attaques de la presse américaine sur le traitement des minorités en France. Un pays où je n'ai jamais eu peur, disait Joséphine Baker en août 1963 aux côtés de Martin Luther King.
Joséphine Baker au Panthéon. Très riche dossier sur franceinter.fr. Et puis le Zoom, vous l'avez dit Nicolas, suivre après ce journal.
Et enfin, le fils de Joséphine Baker, Brian Bouillon Baker, notre invité à 7h50. Il est 7h10, Anaïs, délicate reprise aujourd'hui des négociations sur le nucléaire iranien.
Atmosphère tendue à Vienne après 5 mois de pause et l'élection présidentielle iranienne de juin. Depuis la dénonciation de l'accord par Donald Trump en 2018, Téhéran a progressivement abandonné tous ses engagements sur le nucléaire. Autre nœud diplomatique, Taïwan, île indépendante mais revendiquée par la Chine. Après le Sénat, l'Assemblée nationale vote aujourd'hui une résolution pour que ce territoire puisse participer aux travaux de plusieurs organisations internationales, exclues par exemple de l'OMS, alors que sa gestion de la pandémie a été particulièrement efficace. Écoutez, Yael Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale.
Taïwan en elle-même n'est pas reconnue comme pays au même niveau que peuvent l'être la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Et donc, Taïwan ne siège pas en tant que tel aux Nations Unies. Il n'est pas question de s'immiscer dans les affaires de la Chine ou même de Taïwan, mais il est question d'intérêts en fait supérieurs que peuvent avoir les nations. Par les temps qui courent avec cette crise sanitaire, il est important que chaque pays puisse être associé à l'Organisation mondiale de la santé et à d'autres organisations pour que l'on puisse apprendre tous les uns des autres. Et donc Taïwan, évidemment, doit être intégré à ce type d'organisation.
La députée LREM Yann Braun privée avec Claude Guibal. Le Canada ne sort pas la tête de l'eau après les inondations catastrophiques de mi-novembre. La province de Colombie-Britannique s'attend à de nouvelles tempêtes et son lot de routes détruites et de glissements de terrain. Catastrophe à répétition dans ce secteur depuis les vagues de chaleur et les incendies de cet été. La Coupe Davis de tennis et ce fiasco de l'Espagne, tenante du titre éliminée. Pas mieux pour la France, sortie hier dès les phases de poule. Russie et Serbie se sont qualifiés pour l'écart qui débute aujourd'hui par Italie-Croatie. Mais de la petite balle jaune au ballon rond, ce que tout le monde attend aujourd'hui, c'est le nom du meilleur footballeur de l'année joué en Europe. Un Français, Karim Benzema, ou bien le Parisien, Lionel Messi, qui est, Alexandre Vaux, encore une fois, le grand favori du Ballon d'Or.
Malgré des débuts mitigés avec le PSG, Lionel Messi reste un des grands favoris à sa succession après avoir remporté l'été dernier la Copa América, la Coupe d'Amérique du Sud, son premier trophée majeur avec l'Argentine à 34 ans. Un 7e Ballon d'Or le placerait définitivement au-dessus de l'inoxydable Cristiano Ronaldo, 36 ans, qui a remporté 5 fois le trophée. Mais un joueur peut venir troubler l'ordre mondial, c'est Robert Lewandowski, le Polonais, la machine à marquer du Bayern Munich, sacré meilleur joueur du monde par la Fédération Internationale l'année dernière. Après, au-delà de la performance individuelle et de l'image du joueur, les 180 journalistes appelés à voter ont aussi dû se déterminer en fonction du palmarès. Vainqueur de la dernière Ligue des Champions et de l'Euro, Jorginho, le milieu de terrain italien de Chelsea, fait donc partie des favoris. Et puis il y a Karim Benzema, auteur à 33 ans d'un incroyable comeback en bleu, sans savoir quel impact l'affaire de la sextape aura eu sur le vote des journalistes qui se sont exprimés avant la condamnation du Français mercredi dernier.
Et on connaîtra aussi le Ballon d'Or féminin, 21h ce soir, Théâtre du Châtelet à Paris.
Merci Anaïs Feugat. Le Zoom dans 3 minutes, Joséphine Baker et son amour pour la France.